Bonjour chers auditrices et auditeurs, Tabitha Mkamsouni au micro. Nous accueillons aujourd'hui sur les ondes de la radio Prairie FM, Dr Emmanuel Ishe, qui est spécialiste des infections transmissibles sexuellement et par le sang. Dr Emmanuel Ishe va nous parler de l'hépatite. Eh bien, le 28 juillet, c'est la journée mondiale de lutte contre l'hépatite. Docteur Emmanuel Ishe, vous êtes spécialiste des infections transmissibles sexuellement et par le sang. Et aujourd'hui, le 28, c'est la journée mondiale de lutte contre l'hépatite. C'est quoi l'hépatite?
C'est une inflammation du foie. Et dans le contexte de l'hépatite, donc c'est un virus qui est transmis majoritairement par le sang et qui donc va inflammer le foie. Donc dans le fond, on est rendu à 5 hépatites et c'est pas tellement compliqué comment ils les ont nommées. Ça va de A, B, C, D à E. Mais celles qui sont les plus communes, qu'on entend beaucoup plus parler, c'est l'hépatite A, B et C. L'hépatite A, c'est plus la transmission au niveau de la nourriture. Lorsqu'on part en voyage, souvent, on entend parler du vaccin des voyageurs, par le fameux Twin Risk, qui est comme un vaccin qui combine aussi avec l'hépatite B, pour justement se protéger contre ce virus, contre l'hépatite A.
Est-ce que ça se soigne? Ah,
oui. L'hépatite A, dans le fond, ça ne se soigne pas, mais on s'en débarrasse. La majorité des gens qui vont la contracter vont donc faire les symptômes de l'inflammation. Ils vont faire des fois probablement une jaunisse, l'aspect jaune de la peau, et vont majoritairement s'en débarrasser.
Donc, c'est la jaunisse, maladie... c'est pas seulement pour les enfants?
Non, c'est ça. Il y a assez, c'est dans le fond une inflammation du foie, donc elle amène cet aspect de cumulation d'une ce qu'on appelle la bilirubine et qui fait donc l'aspect jaunâtre. Mais l'hépatite A, les gens vont s'en débarrasser. C'est sûr qu'ils vont être malades, mais on s'en débarrasse et en plus, on a un vaccin efficace. Donc, l'hépatite B, hein, c'est plus une transmission sexuelle. Donc, dans le monde aussi, elle est encore très active. Au Canada, il y a une diminution depuis l'arrivée du vaccin dans les années 90 qui fait qu'effectivement, les cas d'hépatite B, il n'y en a pas beaucoup à cause justement de l'efficacité du vaccin.
Et ça se transmet sexuellement, vous dites?
La majorité, oui, c'est ça. Un peu pour bien vulgariser et dire un peu les points de chacun, je vous dirais que la majorité, la transmission de l'hépatite B se fait de façon sexuelle.
Des fois, on parle de l'hépatite héréditaire. Est-ce que c'est l'hépatite B ou A?
Je vous dirais que c'est peut-être probablement plus l'hépatite B. Des fois, effectivement, mettons une maman qui est infectée par l'hépatite B et qui ne le sait pas, peut le transmettre à la naissance à l'enfant. Donc, c'est pour ça qu'on vaccine beaucoup. Bon, les enfants maintenant sont vaccinés d'emblée à l'école. Mais si, dans le fond, vous êtes une maman de population immigrante, parce que l'hépatite B reste très présente dans certains pays où la vaccination est peut-être moins actuelle, moins présente. Donc, mais si vous arrivez au Canada et que vous êtes dans cette population peut-être un peu à risque d'avoir contracté l'hépatite B, mais on va vacciner l'enfant à la naissance.
Par exemple, les gens qui ont plusieurs partenaires sexuels, c'est facile pour eux d'attraper l'hépatite B?
Oui. C'est sûr que je vous dirais, au Canada, il y en a de moins en moins. Donc, moins il y a de virus d'hépatite B, moins il y a de transmission. Mais c'est sûr que si vous faites un petit voyage à l'extérieur du Canada, c'est sûr qu'en temps de COVID, on voyage un peu moins bien, moins facilement, surtout quand les gens voyagent, on dit toujours de bien se protéger en voyage, qu'il y a encore des pays où la vaccination n'est pas très efficace. Elle n'est pas dans des programmes de vaccination comme au Canada. Donc là, oui, dans la population, dans certains pays, elle est encore très présente. Donc, il faut à ce moment-là faire de la prévention, dire aux voyageurs de bien se protéger s'ils ont des relations sexuelles dans d'autres pays. Et l'hépatite C, donc on a la journée mondiale de l'hépatite C le 28 juillet. L'hépatite C, elle, se transmet plus par le sang. Donc, on a déjà entendu parler du sang contaminé, mais la majorité des gens qui l'ont contracté au Canada, c'est par l'utilisation de drogues intraveineuses. On parle des gens, de l'ordre de 70 à 80 % des gens qui ont contracté l'hépatite C au Canada. C'est donc lors d'une consommation de drogue qui peut remonter à plusieurs années ou qui consomment actuellement activement puis ont été à risque. Ils se sont injectés avec quelqu'un d'autre qui avait l'hépatite.
Mais là, c'est quoi la différence entre la transmission de l'hépatite B et de l'hépatite C? Parce que Je me dis que si l'hépatite B se transmet sexuellement, l'hépatite C par le sang, c'est que l'hépatite B peut se transmettre par le sang aussi.
L'hépatite B peut se transmettre par le sang, mais à des chiffres beaucoup plus bas. Elle est vraiment plus présente dans ce qu'on appelle un peu les sécrétions séminales. Donc, on peut un peu vulgariser ça, là, mais le sperme, puis au niveau des sécrétions vaginales. Donc, j'ai d'utiliser ce mot-là, mais pour bien un peu vulgariser ça, c'est vraiment dans ces fluides-là, si on veut, que le virus vit, tandis qu'elle vit moins dans le sang. Tandis que l'hépatite C, c'est vraiment, il reste dans le sang, il va attaquer le foie, mais on va le retrouver lors de contact de sang à sang. Donc, c'est là qu'on l'attrape, c'est d'un contact de sang à sang. Mais effectivement, des fois, la C, comme vous dites, peut se transmettre de façon sexuelle lors justement de relations sexuelles un peu plus, des enjeux différents, là. On essaie d'un peu d'imaginer, là, où la relation sexuelle, il y a présence de sang. Là, oui, il y aurait une possibilité que l'hépatite C se transmette de façon sexuelle.
Et c'est quoi le pourcentage au Canada? Vous dites que c'est fréquent?
Mais pour l'hépatite C, les chiffres sont autour de 250 000. C'est des chiffres qui sont pas tellement bons parce que c'est une estimation, malheureusement. Parce que c'est l'hépatite C, elle a un problème, c'est qu'elle ne fait pas beaucoup de symptômes. Elle vit dans notre corps, elle attaque le foie à bas bruit, ce que je dis tranquillement, lentement. Ça fait de l'inflammation et si on ne la traite pas, ça peut amener ce qu'on appelle de la cirrhose. Le foie devient dur après plusieurs années. Il peut même amener jusqu'à un cancer du foie. Donc, mais malheureusement, la majorité des gens n'ont pas de symptômes. Donc, on n'est pas porté à dire ou à se faire dépister pour l'hépatite C parce que, et même pour le médecin, des fois, qui voit un patient, s'il ne pose pas des questions un peu précises, si dans ses antécédents, s'il a consommé, s'il a des relations sexuelles à risque, bien souvent, le dépistage ne se fait pas automatiquement.
Donc, c'est pas facile de savoir si quelqu'un a de l'hépatite C ou pas.
Oui, c'est sûr qu'on a des publics cibles, on a des clientèles vulnérables. C'est sûr que quelqu'un qui avoue qu'il a un problème de consommation active, mettons, vous savez, actuellement, on vit une crise des opioïdes un peu partout au Canada. Hein, on entend qu'il y a des gens qui meurent d'overdose. C'est sûr que cette clientèle-là, on sait qu'ils sont à risque d'hépatite C parce qu'ils consomment des drogues intraveineuses. Donc, je vous dirais que cette clientèle-là, on le sait, s'ils rencontrent un docteur, la majorité des médecins vont dire, oh, t'es à risque, je vais te faire un dépistage d'hépatite C. On sait qu'aussi la population immigrante, quand les gens, peu importe le pays, c'est vrai qu'il y a des zones un peu plus à risque, comme ça peut être l'Égypte, qui est un pays où malheureusement, il y a beaucoup de cas d'hépatite C. Donc, si vous venez immigrer, on va être un peu, le médecin va avoir tendance à dire, OK, il faut que je te fasse un dépistage de l'hépatite C. Dans les prisons aussi, les gens aussi qui ont des relations sexuelles avec des hommes sont plus à risque. Donc, il y a des clientèles plus sensibles, c'est plus à risque. Il y a aussi les Premières Nations, où on sait que les cas d'hépatite C, il y en a un peu plus. Mais depuis quelques années, on pense aussi et on suggère que les gens qui sont nés entre 1945 et 1975, donc, les fameux baby boomers, d'emblée de faire au moins un dépistage d'hépatite C dans leur vie. Puis pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être consommé des drogues. Tu sais, vous savez, ce que j'appelle les années 80, là, les années 70-80, la liberté. On se souvient des journées, des soirées disco. Il y avait quand même de la consommation active à cette époque-là. Il pouvait suffire d'une soirée et on pouvait contracter l'hépatite C. Mais c'est des gens qui ont consommé peut-être une fois ou deux qui ne se jugent pas à risque parce que ce n'étaient pas des utilisateurs de drogue qui sont restés dans la consommation. Mais s'ils ne mentionnent pas cet événement à leur médecin de famille, bien, on est moins porté à dépister. Et c'est pour ça que dans les lignes directrices canadiennes depuis 2019, on suggère donc aux baby boomers d'avoir un dépistage. Tu sais, des fois, les gens ils disent, oh, mais j'ai consommé une fois une soirée, je suis pas à risque. Il suffit d'une fois. Et souvent, en plus, dans les années 80, je parle des années 80, là, mais c'était moins connu. L'hépatite C, elle a été identifiée dans les années 89, mais elle existait bien avant. C'est juste qu'on l'a vraiment identifiée à la fin des années 80. Donc, c'est pas, il suffit d'un seul événement. Et comme vous mentionnez, c'est, oui, il suffit juste d'un épisode, mais souvent, les gens l'oublient, cet épisode-là aussi. Et c'est pour ça que d'emblée, il faut faire un dépistage de population, un peu d'aller chercher les patients qu'on n'a pas identifiés.
Il n'y a pas de vaccin?
Non, il n'y a pas de vaccin. La seule différence, il n'y a pas de. Effectivement, l'hépatite A et B, il y a un vaccin. Mais l'hépatite C n'a pas de vaccin, mais a un traitement. Et ça, c'est très prometteur parce que le traitement est très efficace. On parle de l'ordre de 95 et même parfois jusqu'à 100 % d'efficacité avec un traitement qui dure de 8 à 12 semaines avec très peu d'effets secondaires. C'est très efficace. Et vous allez me dire, oui, mais c'est quoi qui fait que c'est très prometteur? C'est juste que. Il y a quelques années, je n'avais pas le même discours. Les traitements étaient très difficiles. C'était un an. C'était comme un traitement de chimiothérapie à petite dose qu'on recevait à chaque semaine. Et l'efficacité était de 40 %. Donc, c'est pour nous, et un peu pour comparer avec l'hépatite B, oui, l'hépatite B a un vaccin, mais n'a pas de traitement. Donc, quand vous contractez l'hépatite B, mais malheureusement, vous êtes pris à vie avec. C'est que l'hépatite C, maintenant, on est capable de dire, on est capable de s'en débarrasser.
Et en résumé, docteur, c'est quoi l'hépatite D et l'hépatite E?
Ah, oh, l'hépatite D, il faut avoir l'hépatite B pour avoir l'hépatite D. Donc, c'est une transmission donc sexuelle. C'est très, très rare. Hein. C'est dans certains pays. Je vous dirais que moi, c'est surtout dans la population immigrante que j'en ai trouvé. Et l'hépatite E, ça se transmet comme une hépatite A. Ça se transmet de nouveau par l'alimentation. Il y a des zones aussi. Il n'y a pas d'hépatite E. En tout cas, très, très rare. Il peut y avoir quelques cas qui sont présents au Canada, mais c'est très, très rare. Donc, on se concentre beaucoup. Au niveau des traitements, c'est surtout pour la B et la C qu'il faut continuer à faire de la promotion. Oui.
Combien d'années une personne peut faire avec l'hépatite C dans son corps?
Ben, elle peut vivre toute sa vie avec. Il y a des gens qui vont, quand, mettons, vous l'avez contracté il y a environ 25 ans, vous pouvez. Le problème, c'est que à long terme, comme j'ai expliqué au début, si vous n'arrivez pas si, mettons, vous ne la traitez pas, elle l'amène au cours des années
Les
à une
cirrhoses.
inflammation, à une cirrhose. Donc, des fois, il y a des gens qui ne la feront pas. Des fois, je vois des gens que dans mon bureau, en fin de compte, on s'est rendu compte qu'ils l'avaient depuis 30 ans. Et quand on fait le bilan, là, quand on regarde la santé du foie, il n'est pas si pire. Mais il y en a d'autres où la maladie est déjà très avancée. Mais il ne faut pas attendre parce que le traitement est tellement efficace qu'il n'y a pas de raison de ne pas traiter actuellement l'hépatite C.
C'est quoi le message que vous lancez aujourd'hui, docteur?
J'en aurais deux. Je dirais qu'actuellement, il faut plus de dépister l'hépatite C. Comme je vous ai dit, comme on s'en est parlé au début, le fameux chiffre de 250 000, on ne le sait pas. C'est une estimation. Et ce qu'on s'est rendu compte, que oui, on a traité des patients, mais il nous reste ceux qu'on n'a pas trouvés, qu'on n'a pas identifiés. Donc, ça serait de faire du dépistage. Et si vous vous jugez à risque, d'aller vous faire dépister. Et si vous êtes né en 1945 et 1975, me dire, oh, peut-être, même si je ne me souviens pas trop, d'aller vous faire dépister. De mentionner aussi que les traitements, maintenant, il n'y a plus de raison d'avoir peur du traitement parce que les traitements ont beaucoup changé et le traitement est tellement efficace qu'il n'y a pas de raison d'offrir ce traitement-là.
Merci beaucoup, docteur. Merci pour
Ça
toutes
me fait
les
plaisir.
explications.
Ça me fait plaisir. Donc, bonjour à Saskatchewan, hein? C'est
OK,
bien ça?
au revoir. Oui,
OK,
c'est ça,
merci,
à
au revoir.
Gravelbourg. Au revoir.
Merci, au revoir.
Voilà, chers auditrices et auditeurs, c'est ici que prend fin notre mission. Tabitha Mukamusuni vous l'a présentée et je rappelle que Dr. Emmanuel Hichet, spécialiste des infections transmissibles sexuellement et par le sang, était notre invité. Je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.